Quoi ? Tu ne fais pas partie du gratin ? Tu ne connais pas la cousine de la grand-mère de Britney ? Pas de panique, Trent Mix Radio te déroule le tapis rouge. C'est la rencontre VIP, avec Trent.
Salut, c'est Wax Taylor et je vous invite à découvrir By Any Beats Necessary sur Trent Mix Radio.
Salut tout le monde, c'est Trent. On voulait frapper fort pour ouvrir le bal des rencontres VIP cette saison. Et ben, il me semble qu'on n'a pas trop mal réussi notre coup. Wax Taylor, le ponte du trip-hop ciselé au scalpel, globe-trotteur dans plus de 60 pays, performeur devant des centaines de milliers de spectateurs en festival, a fait escale sur Trent Mix Radio pour nous parler de son nouvel album. Une rencontre comme on les aime, très enrichissante et super détendue. Enjoy! Wax Taylor, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation sur Trent Mix Radio. On est super ravis de te rencontrer, c'est la première fois qu'on t'accueille. Alors on est au Radiant à Caluire, où tu viens présenter ton nouvel opus sur scène qui s'appelle By Any Beats Necessary, qui est un excellent, excellent album. Alors cet album, c'est un road trip où tu as pas mal d'invités. Tu as Tricky, qui était un ancien de Massive Attack. Tu as également Ghostface Killa du Wu-Tang Clan. Donc du coup, bah, en fait, tu as l'habitude d'inviter des gens très, très prestigieux. Comment tu les choisis, tes invités ? C'est une question de feeling ? C'est une question de moment ? Comment ça se passe ?
C'est une envie, c'est la musique qui guide tout. C'est-à-dire que je ne vais jamais contacter quelqu'un avant d'avoir un titre fini, terminé, bien clair, très, très arrêté. C'est vraiment comme une trame, un scénario avec un rôle, une distribution, tu vois, c'est vraiment ça. Le rapport aux gens connus, pas connus, je vais te dire, il aurait presque tendance à m'emmerder. C'est-à-dire que j'ai presque des retenues à travailler avec des gens connus parce que pour moi, le moteur, c'est l'envie et c'est presque... Tu vois, ça peut paraître bizarre de dire ça comme ça, mais je suis presque plus fier, entre guillemets, de travailler avec Idil qui sort de nulle part, que de dire, bon, tu travailles avec Ghostface, envie de dire, super, t'es pas le premier, t'es pas le dernier, etc., tu vois. Donc du coup, moi, ma seule justification de travailler avec Ghostface, c'est que je me dis, j'ai pensé à lui, tu vois, c'est pas j'ai pensé à un mec connu, c'est pas, tiens, on va faire un peu de name dropping, mets-moi une liste de 10 mecs et on va voir qui on arrive à attraper. C'est vraiment, j'ai pensé à lui. Tu m'aurais dit, on peut avoir Jeza du Wu-Tang Clan. Je t'aurais dit, mais j'en ai rien à foutre, quoi. Enfin, et pourtant, il a fait des disques que j'aime bien et tout. Mais c'est une question de rôle. D'un moment donné, Tricky, on se croise depuis une dizaine d'années. Je le connais. Je me suis jamais dit, je bossais avec Tricky, tu vois. C'est juste que là, d'un coup, le morceau, je me suis dit, ah, il faut un truc. C'était dark. Et j'ai pensé tout de suite à lui. Et c'est quelqu'un qui... pour le coup, tu vois, on parle souvent quand tu commences, enfin, tu vois, de références, d'influences, de choses et tout. C'est quelqu'un qui fait partie d'une scène qui a eu une influence sur ma musique il y a 20 ans, quoi.
Ouais, clairement. Ouais. J'ai vu certaines de tes interviews promo sur ce dernier album. Tu parles souvent de road trip. T'es quelqu'un qui a énormément voyagé. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Est-ce que quand tu as fait cet album, tu t'es dit, voilà, c'est le moment de regarder en arrière. J'ai fait tous ces road trips, j'ai fait tous ces voyages et il faut que je les illustre par ma musique ou pas du tout, du tout?
Pas tout à fait, mais ce qui est intéressant dans cette idée-là, c'est que il y a eu un déclic parce qu'on m'a fait une proposition de tournée aux États-Unis au moment où j'étais dans la première phase de processus de l'album. Et ce qui m'a interpellé, et c'est là où il y a tu parlais de regarder en arrière, c'est que j'avais dit que je ne tournerais pas du tout. Je me suis retrouvé à discuter avec le promoteur en question et j'ai eu l'impression vraiment au bout de 20 minutes que j'avais quasiment acté le fait que j'y étais parti, quoi. Et c'est vrai que je me revois vraiment raccrocher et me dire mais et me questionner, me dire mais c'est quoi ton problème, pourquoi tu peux pas t'en empêcher et tout. Et c'est vrai que ça m'a permis de faire regarder en arrière. Je me dis mais je regarde 10 ans en arrière, je me dis mais c'est une frénésie, quoi. C'est juste, j'ai fait 60 pays. Y a des pays, tu dis, ouais, bon, on va pas faire n'importe quoi non plus, mais il y a une envie, ouais. Et à partir du moment où j'ai choisi cet angle-là, et que j'avais vraiment envie de. J'avais besoin d'un échappatoire dans cette période-là, en fait. Ça, c'est surtout ça, en fait. J'avais vraiment besoin d'un échappatoire. Et moi, je me rappelle qu'à un moment donné, c'est venu un petit peu avant cette histoire-là de tournée proposée, où un jour, on était dans cette phase très, très noire, en fait, de notre histoire en France. Et j'étais à me dire, c'est lourd, c'est pesant. Je me dis, si ça tenait qu'à moi, je prendrais une caisse, enfin, je prendrais un billet, je me barrerais, je prendrais une caisse et je ferais les États-Unis, quoi. Ça me ferait du bien, là.
Ouais.
Et c'est parti comme ça, un peu, me disant, je vais peut-être pas le faire là. Mais et si je le faisais en son dans un studio en Normandie, ça donnerait quoi, tu vois.
D'accord.
Avec autant d'images projetées de ce que j'ai pu y voir que de ce que j'ai pu fantasmer en tant que gamin en regardant des films, des séries. Tu vois, c'est un truc... moi, j'aime bien l'idée d'entretenir des fantasmes, des visions, des images d'Épinal, des choses comme ça. Ça ne veut pas dire que tu es idiot, naïf sur une société donnée, mais ça veut dire que... Moi, j'adore regarder, je sais pas moi, de regarder Michael Douglas dans les rues de San Francisco, juste parce que ça me fait triper, que j'aurais adoré voir San Francisco aux années 70, ouais. De regarder un Kojak pour les mêmes raisons à New York. Tu sais, voilà, donc j'ai ce trip-là en fait en tête, tu vois, c'est des voyages temps-espace.
Concernant la scène, j'ai cru comprendre que tu avais sorti l'artillerie lourde cette fois-ci. Tu as 4 chanteurs, alors je vais les citer. Donc il y a Charlotte Savary, Matic, Rachan Ahmad et tu disais Idil. Il y a une grosse nouveauté, c'est que je crois qu'il y a un batteur, deux guitaristes, dont un qui fait du violoncelle aussi. Pourquoi est-ce que tu as choisi de sortir l'artillerie lourde pour cet opus-là?
Bah, en fait, c'est lui qui m'a guidé. C'est-à-dire que très concrètement, je te dirais... je sortais de cette expérience symphonique au moment où j'attaquais l'album. Et c'est compliqué parce que tu sors de quelque chose qui est tellement à part. Tu dis comment je repars en fait et comment je relance le mécanisme. L'album précédent sur Dusty Rainbow, il y avait quelque chose de très 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 narratif où j'ai envie de dire que je suis presque allé jusqu'à vampiriser la musique avec l'image. Là, j'avais envie de plus faire d'image parce qu'on en a fait. Mais de travailler différemment et surtout de retrouver en fait ce qui était le tenant de cet album, c'est-à-dire à mon sens un rapport de son très il y a de l'air, voilà, il y a de l'air dans, tu vois, les guitares, les espaces, les grands espaces, enfin cette sensation là et le travail sur les guitares, c'était super important sur l'album. Pour moi, c'était vraiment une des clés. Et donc avec Benjamin Bouton, le guitariste avec qui je travaille, tu vois, avec qui je collabore depuis plus de 10 ans, tu vois, c'est quelqu'un, pour moi c'est quelqu'un de vraiment important dans mon histoire musicale. Et voilà, il est venu à la maison, on a travaillé, on a pris le temps. Et ce qui était cool, c'était justement, là, je te parle de ça, c'était autour de Noël l'an dernier, tu vois, on a commencé à discuter de ça. Et je lui ai dit, il faut vraiment qu'on pense tout de suite comment on va projeter ça, parce que ça va être compliqué. Et donc j'ai dit à Mathieu, donc mon violoncelliste qui jouait aussi de la guitare, j'ai dit, écoute, tu joues un peu de la guitare, tu vas jouer, t'as intérêt à bosser, parce qu'on va, là, on y va, là, vraiment. Et le truc qui est venu en route, c'est la batterie, parce que je me suis dit, en fait, il y a quelque chose d'organique. Et je pense que ça serait intéressant d'aller chercher ce truc-là. Ouais. J'ai envie de te dire d'aller chercher une énergie rock, même si c'est pas purement rock. D'aller chercher rock, quelque chose de, voilà, d'assumer. Ça va sûrement avec mes écoutes aussi, tu vois. Je me suis rendu compte que depuis quand même pas mal d'années, j'écoutais de plus en plus, non seulement des vieilles choses en rock, ça a toujours été un peu, mais même dans la scène actuelle, je suis plus excité à écouter ce qui sort chez Soundman Records que la plupart des trucs hip-hop, parce que c'est pas toujours très excitant. Et voilà, et que mon spectre, il est un petit peu comme ça, et que j'avais vraiment besoin de ça. Et la batterie, ça peut paraître un peu, enfin je vais pas dire anodin ou je ne sais quoi, mais pour moi, dans mon univers sonore, c'est une révolution. C'est-à-dire que pour réussir à conserver, tu vois, l'esthétique, l'armature rythmique telle que je l'ai en tête, il fallait vraiment quelqu'un qui soit... Enfin, il fallait trouver la bonne personne. Et là, je l'ai eu... j'ai rencontré Yann Chapoutier, qui est également percussionniste et qui était sur le projet symphonique. Et donc, c'est comme ça qu'on a connecté. D'accord. Et je me suis dit, mais... je me suis questionné. C'est-à-dire que j'ai pas dit on y va. J'ai dit, tu sais quoi, je viens à Lille, parce qu'il est lillois. On va se prendre 3-4 jours. Je viens, on va travailler, on va voir ce que ça dit. Et il m'a bluffé direct. C'est-à-dire qu'il est arrivé avec une culture classique. C'est-à-dire qu'il est arrivé avec une pile comme ça de partitions. Moi, j'avais pas du tout envisagé le truc comme ça, tu vois. Il arrivait avec les patterns, les trucs. Moi, je savais même pas que je faisais plein de patterns. Je me rendais même pas compte de comment je programme. C'est naturel avec des machines. On se permet 15 000 trucs. Pour un batteur, travailler avec moi, c'est un enfer, quoi. C'est un enfer. Il m'a dit, je te déteste. Je te déteste. C'est un enfer. Mais bon, une fois que c'est en place, c'est cool. Mais et après, il y a le côté. Est-ce que je joue de l'acoustique, des triggers? Enfin, tu vois, les triggers, c'est là, je jargonne, mais c'est le côté. Voilà, les machines, les sons de machines, les sons électroniques. Donc, on a essayé de trouver l'alchimie de tout ça et c'est chouette, quoi. Moi, je suis super content. C'est un album, c'est un live qui a du coup une approche différente dans l'énergie.
Moi, j'ai une dernière question. Il me semble que tu sors un documentaire sur les disquaires indépendants américains qui s'appelle In Wax We Trust. C'est ça. Est-ce que tu peux en parler?
Bien sûr.
Dire deux mots.
Bah, écoute, je l'ai mis en ligne il y a même une dizaine de jours maintenant.
Il est mis en ligne.
Il est en ligne. Il est en ligne. Bah, écoute, moi, c'était une envie à double entrée, c'est-à-dire il y avait le sujet. C'est sûr. Mais le documentaire, en fait, de façon générale, la réalisation, c'est un truc qui m'intéresse. J'ai déjà fait pas mal de choréales, de choses. Je gravite autour, tu vois. C'est un peu comme une espèce de sujet que je contourne sans aller au vif. Le sujet des disquaires indépendants, moi, si tu veux, ça fait 15 ans que j'entends parler de crise de l'industrie de la musique. Je ne la nie pas, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on a un point de vue, c'est le point de vue d'un chef projet, le point de vue d'un directeur marketing, c'est-à-dire des gens qui, sans vouloir être poujadiste ou un petit peu démago, sont quand même des gens qui théorisent dans des bureaux à Paris, ouais, quoi, ouais. Et qui sont pas au contact direct de, tu vois, de, des gens du vrai, quoi. Et j'entends rarement un disquaire m'expliquer ce qu'ils pensent. Il se trouve qu'en plus la situation aux États-Unis elle est différente, parce que en France on a quand même on a la FNAC, on a les espaces culture, on a des enseignes de, comment dire, de chaîne, voilà.
Ouais.
Aux États-Unis, en fait, en plus de 10 ans, il s'est passé un peu tout l'inverse. C'est-à-dire, moi, j'ai sorti mon premier album, on avait à peu près les équivalences de Fnac, Virgin et tout ça, HMV, enfin, bref. Ouais. Et en fait, à chaque nouvel album, on me disait, au fait, il n'y a plus de Fnac, au fait, il n'y a plus de Virgin, au fait, il n'y a plus ça, il n'y a plus ça. Donc, à la fois, c'est compliqué, mais d'un autre côté, ça a fait survivre les disquaires indépendants, qui n'existent pas. Ouais. Je n'ai pas dit qu'il n'existe plus en France, mais la situation n'est pas la même. Et c'était intéressant, c'était de voir aussi, on est en 2016, on est dans un monde dématérialisé. Le moteur, c'est la question 1, c'est un peu, bon, pourquoi tu te lèves tous les matins pour vendre de la cire, en fait? C'est quoi le moteur?
Ouais.
Et après, du coup, ça devient un peu un portrait de gens passionnés. C'est aussi ça, c'est les portraits de gens passionnés. Ce que je voulais, c'était faire un documentaire qui ne soit pas un documentaire pour spécialistes, tu vois, genre le truc de digger ou de machin.
Ouais. Non,
ça se voulait vraiment un truc où tu peux te dire... comme toi, tu as tenu ta télé, tu vois un documentaire sur un sujet qui n'est pas forcément ton centre d'intérêt principal, mais tu finis par te laisser accrocher. Donc il y avait ça, et puis après c'est des portraits croisés, c'était plutôt une belle expérience pour moi, quoi.
Ouais, excellent, merci, c'était super intéressant, je suis très très content de t'avoir rencontré. Je rappelle la sortie de ton nouvel album qui s'appelle By Any Beats Necessary, et tu es en tournée jusqu'au mois de mars prochain, donc j'encourage nos auditeurs à aller te voir en concert, parce que ça vaut vraiment vraiment le coup. Ouais, excellent, merci beaucoup.